6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, la stratégie américaine de la pression maximale sur l'Iran est-elle en train de se retourner contre les États-Unis?
L'Iran a commis un acte de guerre et les États-Unis ont beaucoup d'options pour lui répondre, assure à présent à la fois Donald Trump et son secrétaire d'État Mike Pompeo en visite en Arabie Saoudite hier, où le régime de Riyad présentait des éléments matériels, débris, drones Delta et de missiles de croisière, prouvant selon elle que les attaques contre deux de ses installations pétrolières le week-end dernier a bien été menées, alors non pas menées mais au moins commanditées par l'Iran. Entre autres réponses, les États-Unis promettent aujourd'hui de durcir les sanctions contre le régime iranien, sans grand effet pour l'instant sur la détermination de l'Iran à défendre ses intérêts. Bonjour Fereydoun Kavand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste de l'Iran, vous êtes ancien maître de conférence à l'université Paris 5. Alors, quelles sanctions américaines pourraient s'ajouter à celles que les États-Unis ont déjà remises en vigueur l'année dernière quand ils se sont désengagés de l'accord sur le nucléaire iranien?
Effectivement, on se demande quelles pourraient être les sanctions supplémentaires que les États-Unis pourraient mettre en place à l'encontre de la République islamique. Les transactions extérieures de l'Iran sont bloquées. Les exportations pétrolières du pays ont été divisées par 6. Les liaisons bancaires et financières n'existent pas et l'économie du pays qui était déjà en très mauvais état en raison de la mauvaise gestion et de la corruption s'est écroulée. Si le président des États-Unis parle actuellement de durcissement des sanctions, c'est tout simplement parce que dans l'état actuel des choses, il calcule et réagit d'abord en fonction de sa réélection et ne souhaite pas réduire ses chances pour un deuxième mandat en déclenchant un conflit majeur qui pourrait échapper à tout contrôle. Donc, il se contente de déclarer seulement le durcissement des sanctions.
Donc, durcissement des sanctions, cette promesse de durcir les sanctions serait plus, d'après vous, un aveu de faiblesse qu'une démonstration de force?
Exactement. Et les dirigeants de la République islamique le savent parfaitement parce que après 40 ans de conflit avec les États-Unis, ils ont fini par connaître les mécanismes de la vie politique américaine et notamment les échéances électorales et leurs impacts sur la politique étrangère de la première puissance du monde. Et par conséquent, ils savent que le président, la Maison Blanche, à l'heure actuelle, ne souhaite pas aller très loin dans son affrontement avec la République islamique.
Il n'y a en effet pas d'intérêt politique puisqu'il s'est fait élire notamment sur cette promesse de se désengager un peu partout de là où les États-Unis sont aujourd'hui au Moyen-Orient. Il n'y a pas non plus du coup d'intérêt stratégique parce que les États-Unis bientôt ne seront plus en Iran, ne seront plus en Irak, ne seront plus en Syrie. Ils sont en train de signer des accords avec les talibans notamment. Donc matériellement, peuvent-ils également se retirer, enfin vraiment continuer à engager un conflit avec l'Iran?
Écoutez, on sait que l'Amérique n'a pas besoin du pétrole du Moyen-Orient à l'heure actuelle. Les États-Unis sont devenus les plus grands producteurs du pétrole et bientôt ils seront également un exportateur très important. Ceux qui sont visés, ceux qui sont menacés essentiellement par le conflit à l'heure actuelle, sont les puissances asiatiques, mais aussi l'Europe. Et on ne voit aucune initiative de la part des Asiatiques et des Européens dans ce dossier. Donc les États-Unis les encouragent à constituer une force commune, une force navale pour intervenir dans la région du Golfe Persique. Et dans l'état actuel des choses, on ne voit pas comment ce projet pourrait être réalisé.
Quelle capacité de riposte d'ailleurs aurait l'Iran au cas où, en comparaison par exemple avec un autre pays où les États-Unis sont intervenus, pays devenu bourbier et pourtant trois fois plus petit que l'Iran, c'est l'Irak?
Écoutez, l'Iran a des atouts. Depuis plusieurs décennies, les Iraniens ont investi, la République islamique a consacré énormément de moyens et d'investissements à des groupements, qui sont proches de la politique iranienne. Par exemple, le Hezbollah au Liban, Hashd al-Shaabi en Irak, les Houthis au Yémen et d'autres groupuscules également au Pakistan chiite, au Pakistan et en Afghanistan. Et l'Iran pourrait s'appuyer sur ses forces pour menacer les autres pays de la région et en particulier l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens commencent à avoir des doutes sur la capacité des États-Unis pour les défendre. Et Mohammed bin Salman, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, découvre aujourd'hui avec une grande amertume que l'Amérique n'est pas véritablement très décidée à les protéger. Cela constitue une menace extrêmement grave pour les pays de la région. Et donc, on constate à l'heure actuelle que, par exemple, les Émirats arabes unis, qui étaient très proches de l'Arabie saoudite et qui étaient, disons, les alliés les plus proches de Riyad dans la guerre au Yémen, à l'heure actuelle, se sont retirés de cette alliance et commencent à, disons, à montrer leur bienveillance à l'égard de la République islamique.
En tout cas, ils ont envoyé deux émissaires à Téhéran pour négocier, ce qui montre une certaine fébrilité de la part des Émirats arabes unis qui, jusque-là, ont été très discrets dans ce dossier-là. Est-ce que vous avez été surpris, Fereydoun Kavand, que l'Arabie saoudite, hier, tienne à présenter ce qu'elle annonce comme des preuves de ce que l'Iran a commandité les attaques contre ses installations pétrolières, donc des débris de drones ou de missiles de croisière? Est-ce que vous êtes surpris qu'elle ait tenu à le faire dans la mesure où, comme vous le dites, l'Arabie saoudite commence à se demander si les États-Unis la soutiendraient dans le cas d'une guerre avec l'Iran? Et jusque-là, elle s'était montrée quand même assez prudente, n'a pas explicitement désigné l'Iran pendant plusieurs jours.
Effectivement, dans un premier temps, les Saoudiens étaient très, très, très prudents. Maintenant, étant donné, les visites des responsables américains à Riyad, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils pourraient citer le nom de l'Iran comme responsable de cette attaque. Mais à vrai dire, à l'heure actuelle, en Arabie saoudite, il y a une très grande peur face à l'avenir, encore une fois, parce que les Saoudiens ne sont pas sûrs que les Américains, dans l'état actuel des choses, feraient vraiment un geste spectaculaire pour annoncer leur soutien aux pays de la région du Golfe Persique et en particulier à l'Arabie saoudite. Mais je pense que les Saoudiens n'avaient pas le choix. Et il fallait qu'ils désignent l'Iran pour encourager non seulement les États-Unis, mais aussi des puissances européennes, en particulier la France, qui commence à avoir qui ont pris des décisions pour réduire les tensions entre Téhéran et Washington, pour entraîner également les pays européens ainsi que les asiatiques dans ce conflit qui menace en fait leur existence.
Oui, l'Arabie saoudite se sent menacée par l'éventualité que leur allié les États-Unis se mette à négocier avec l'Iran, à reprendre langue avec le régime de Téhéran. Donald Trump, à votre avis, est-ce qu'il pourrait la jouer avec l'Iran comme il l'a fait avec la Corée du Nord, c'est-à-dire d'abord pression maximale, cette stratégie de pression maximale, puis proposition de rencontre pour arriver en position de force dans les négociations et puis donner l'impression d'être à l'initiative des discussions et relâche de la pression? Est-ce que vous y voyez vraiment une stratégie et comment l'Iran y répond, visiblement aussi par une stratégie de pression maximale?
Écoutez, donc la pression maximale est déjà là, mais il faut savoir qu'il se passe également des choses à l'intérieur de l'Iran et à l'intérieur des États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des faucons beaucoup plus, radicaux que le président des États-Unis qui incitent la Maison-Blanche à agir. Et même dans une certaine mesure, accuse la Maison Blanche de faire preuve de faiblesse vis-à-vis de la République islamique. En Iran également, le guide suprême de la révolution islamique, Ayatollah Khamenei, a déclaré qu'il ne souhaitait pas avoir des négociations avec les États-Unis. Et même d'une certaine manière, il a interdit aux dirigeants modérés, en particulier le président Rouhani, d'entrer en contact ou en négociation avec les États-Unis. Donc nous en sommes là. Mais je pense que ce qui fait peur aux dirigeants de la République islamique, c'est le deuxième mandat du président Trump. Donc ils savent que s'ils veulent arriver à, disons, des négociations très fructueuses pour eux, ils ont intérêt à faire, disons, ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle, et non pas après le début du deuxième mandat du président actuel.
Fereydoun
actuelle des États-Unis.
Feridoun Kavand, pour conclure, en quelques mots, est-ce que les élections en Israël peuvent changer la donne? Alors pour l'instant, aucune majorité ne s'est dessinée après les législatives, mais Benny Gantz est à égalité de siège avec Benjamin Netanyahou et Benny Gantz a déjà évoqué sa volonté de réunir une conférence régionale avec les pays arabes pour la stabilité dans la région. Les partis arabes ont obtenu 12 ou 13 sièges. Bon, pour l'instant, c'est confus, mais est-ce que d'après vous, est-ce que vous observez ces élections comme pouvant changer quelque chose?
Écoutez, Monsieur Netanyahou avec Mohammed bin Salman, l'homme fort de l'Arabie, étaient les deux personnalités de la région qui exerçaient une pression très forte sur la Maison Blanche pour agir contre l'Iran. Alors, est-ce que dans l'état actuel des choses, les changements en Israël pourraient, disons, réduire un peu cette pression sur la Maison Blanche? C'est possible, mais il faut attendre, disons, la constitution du nouveau gouvernement d'Israël.
Et que nous suivrons évidemment sur France Culture. Merci beaucoup Feridoun Kavand d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. Bonjour, merci.